VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Bagassi Courant, direct de Washington, lundi 31 décembre 2018. Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, présidentiel en RDC, le Front commun appelle à attendre calmement la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Et à Goma, tous les bureaux de vote ont fermé leurs opérations de dépouillement et les résultats ont été affichés. Dans le sud de Kivu, des échauffourées ont fait hier 3 morts au centre de vote de l'école primaire de Lourala, en territoire de Walungu. Et puis, état d'urgence bientôt imposé dans plusieurs régions du Burkina Faso. Le président burkinabé donnera les détails ce soir. Et puis, ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Voilà, en République démocratique du Congo, l'accès à Internet et aux réseaux sociaux a été coupé sur instruction du gouvernement dans ce pays lundi au lendemain des élections générales. L'équipe de campagne du candidat d'opposition Martin Fayulu accuse les autorités de couper Internet pour éviter la diffusion de procès-verbaux qui confirment la victoire écrasante de leur candidat. Ce sont leurs expressions. Le Front commun appelle à s'en tenir à ce que dira la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. On fait le point avec notre envoyé spécial à Kinshasa, Abdourahmane Dia.
L'un des porte-parole du FCC, Kikaya Binkarubi, a affirmé devant la presse que sa coalition avait déployé 1 million de témoins à travers le pays et dispose d'un centre de compilation des résultats. Cependant, Kikaya Binkarubi affirme que sa coalition ne va pas publier les résultats à sa disposition car son candidat a signé le pacte d'engagement avec la SADC, la Communauté de développement d'Afrique australe. Il met donc en garde ceux qui tenteraient de publier des résultats à la place de la CENI, qui prévoit la publication des résultats provisoires le 6 janvier. M. Karubi lance enfin un appel à la sérénité et à attendre calmement la publication des résultats. L'opposition continue de dénoncer de nombreuses irrégularités. En attendant, les Kinois se préparent à célébrer la fin d'année dans une ambiance plutôt morose, d'autant plus que l'accès à Internet est très difficile depuis ce lundi matin. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
Et au lendemain du vote à Goma, dans l'est du pays, tous les bureaux de vote ont fermé leurs opérations de dépouillement et les résultats de chaque bureau ont été affichés. La nuit a été longue là-bas pour les témoins et les agents électoraux qui ont passé sans arrêt plus de 24 heures au travail. À Goma, justement, le scrutin s'est bien passé en gros, mais à l'intérieur de la province, comme à Masisi et dans le Rutshuru, deux groupes armés ont envahi les bureaux de vote et ont voulu imposer leur choix pendant quelques heures avant d'y être chassés par l'armée. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, nous a envoyé ce reportage.
C'est lundi matin, au lendemain du scrutin, presque tous les 32 sites de vote avec les 699 bureaux de vote ont été certains envahis par des courriers et de nombreux témoins qui ont même passé la nuit pour assister au dépouillement. Ici, nous sommes dans l'un des sites de vote à l'Institut Zanere au quartier Katindo. Quelques témoignages.
Bon, en tant que témoin, le boulot s'est passé très bien. Dépouillement parce que nous sommes arrivés ici depuis 6h30 et on est dormi ici. C'est comme ça les matins, on a fini tout et tout s'est bien passé. Ici, dans mon bureau de vote ici, il y avait au moins 581. Mais ceux qui ont voté, c'est 292. Voilà.
La journée a été longue pour ces Congolais qui n'ont pas pu voter pour n'avoir pas trouvé leur nom sur les listes électorales.
J'ai sillonné, j'ai regardé, j'ai cherché partout, il n'y a pas mon nom. Et ils m'ont donné même le numéro de RTL. Envoyé le message au 170 avec votre numéro de carte. J'ai envoyé plus de 3 fois ça ici, il n'y a pas de réponse. Mais, et pourtant ma carte a été livrée ici à Farade. On a beaucoup de cas ici, on a soumis ça. Ce n'est pas moi seul.
Dans les bureaux, quelques observateurs de la société civile congolaise font le nécessaire et prennent note sur tout ce qui se passe. Justine Massika, membre de la société civile au Nord Kivu.
Nous, on a observé si la machine a démarré à l'heure prévue et s'il n'y avait pas quelque chose d'alarme et si le vote est vraiment individuel et secret. Et surtout que...
Pendant cette ronde, candidat des bureaux de vote. VOA Afrique a rencontré le candidat de l'année. Il est peut-être l'unique handicapé à avoir osé. Il veut selon lui aller au Parlement et défendre les personnes vivant avec handicap comme lui. Il s'appelle Prince Mundenga. Il vient juste de glisser son bulletin d'alierne.
Voilà, c'était donc le reportage de Charlie Kassereka à Goma, dans le nord Kivu. Rendons-nous maintenant dans le sud de Kivu, où au centre de vote de l'école primaire de Lourhala, en territoire de Walungu, des échauffourées ont fait hier 3 morts. Un électeur qui avait reçu une balle a succombé à ses blessures. Un policier a été lynché par la foule, tout comme l'informaticien de la CENI. Lui, il a été soupçonné d'avoir manipulé le choix d'un électeur. Le centre, lui, a été aussitôt fermé après ces incidents. VOA Afrique a recueilli le témoignage d'un habitant de Walungu. Il a requis l'anonymat.
L'incident au niveau de Lourhala, au centre de vote, à l'été Lourhala, il y a un papa qui est venu voter, qui ne savait pas utiliser l'outil informatique, qui a voulu voter pour Félix Tshisekedi. L'informaticien a voté ailleurs, à la députation provinciale, on l'y a orienté ailleurs, et le papa a crié fort que non, c'est pas la personne que j'ai voulu voter qu'on m'a fait voter. Et maintenant, et c'est comme ça que l'informaticien a voulu fuir à travers la fenêtre et les électeurs lui ont récupéré et c'est comme ça qu'il a été lâchement assassiné par la foule. Le policier qui voulait intervenir quand il a tiré, malheureusement, il y a eu des balles qui ont atteint parmi les électeurs et les policiers qui a voulu fuir. Et la population lui a récupéré loin du centre. Et c'est comme ça que lui aussi a été tué par la population. Et c'est lui qui est atteint par le bal, lui aussi a succombé de ses blessures. Et la question a dégénéré, même le véhicule du chef d'antenne a été incendié, brûlé.
Ça, c'était le Congo et toute autre chose dans l'actualité ce lundi. Les autorités du Burkina Faso comptent décréter l'état d'urgence, peut-être dès demain, dans plusieurs provinces du pays en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Rien que cette semaine, une dizaine de gendarmes ont été tués dans des attaques vers la frontière avec le Mali. On fait le point à Ouagadougou avec notre correspondant Lamine Traoré.
Le président du Faso a décidé de déclarer l'état d'urgence dans certaines provinces du Burkina Faso. Il a également donné des instructions pour des dispositions sécuritaires particulières sur toute l'étendue du territoire, a déclaré le porte-parole du gouvernement Rémi Danjinou à la sortie d'un conseil des ministres extraordinaire sur la situation sécuritaire. Selon les informations de VOA Afrique, le chef de l'État donnera ce soir dans son discours à la nation les détails sur cette mesure. Mais déjà, l'état d'urgence concerne plusieurs provinces de cette région sur les 13 que compte le pays, a affirmé le porte-parole du gouvernement. Il a cité les régions des hauts bassins, de la boucle du Moon, des Cascades, du centre-est, de l'est, du nord et du Sahel. L'état d'urgence, c'est pour assurer avec sérénité et efficacité la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et de ramener la quiétude au sein des populations, a terminé le ministre. Le Burkina Faso est confronté depuis 2016 à des attaques terroristes récurrentes. Jeudi dernier, 10 gendarmes ont été tués dans une embuscade à Toeni, une localité située dans le nord-ouest du Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et au Tchad, près de 60 prisonniers politiques ont été libérés ce lundi. Ils bénéficient donc de l'amnistie générale décrétée en mai par le président Idriss Déby en faveur des ex-rebelles. 37 prisonniers étaient détenus au bagne de Korotoro, situé dans le nord désertique tchadien. 4 venaient de Moussoro, à 300 km au nord-est de la capitale, et les 17 autres étaient enfermés à N'Djamena. On fait le point à N'Djamena donc avec notre correspondant André Kodmadjingar.
Ils sont au total 58 ex-détenus de la maison d'arrêt de N'Djamena, éligibles à la grâce accordée par le président Déby à recevoir des mains des autorités judiciaires des actes de libération, actes qui les dispensent de toute poursuite pour des infractions commises entre juin 1991 à juin 2018.
Ces infractions sont les suivantes: trahison, espionnage, atteinte à la défense nationale, présence irrégulière dans certains lieux, des atteintes à l'ordre constitutionnel, des organisations contre l'ordre constitutionnel, des atteintes contre les institutions de l'État, des bandes armées, des mouvements insurrectionnels, du mercenariat.
Lui, c'est Abdoulaye Chérif Djorok, directeur administratif pénitentiaire et de la réinsertion sociale. Les ex-détenus, quant à eux, remercient les hautes autorités qui ont pris cet acte pour leur permettre de recouvrer la liberté. Au nom de tous les bénéficiaires, Ramadan Service Game a déclaré qu'ils ne vont plus retourner encore en prison. Pour le ministre de la Justice chargé des droits de l'homme, Jimmy Arabi, l'amnistie générale accordée par le président Déby n'est pas sélective, mais elle concerne l'ensemble des Tchadiens, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, alors que plusieurs autres détenus pouvant bénéficier de cette même grâce n'en font pas partie. André Kodmadingar Ndjamena, VO Afrique.
VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà pour le journal. Vous écoutez le monde aujourd'hui, c'est sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, on en parle et c'est dans Minute Eco, présenté par Nanif Talani.
Au Kenya, les exportations horticoles ont généré 127,7 milliards de shillings sur les 10 premiers mois de 2018. C'est un bond de 33% par rapport à la période correspondante un an plus tôt, rapporte Business Daily Africa. Le secteur des légumes a enregistré 22 milliards de shillings, une progression de 14,6%, alors que les fruits ont généré 11,8 milliards de shillings, soit 44% de plus qu'en 2017. En Tunisie, Ami Assurance va émettre des titres participatifs de 35 millions de dinars tunisiens. L'émission, sans appel public à l'épargne participatif, sera réservée à son principal actionnaire, en l'occurrence la Banque Nationale Agricole. Ami Assurance avait décidé en mars dernier d'augmenter ses fonds propres de 70 millions de dinars tunisiens. Cette augmentation sera portée par les actionnaires de la Banque Nationale Agricole, HBG Holding, l'Union Générale Tunisienne du Travail et la Centrale Syndicale Tunisienne. Pour terminer, en 2018, le cuivre, l'aluminium et le nickel ont subi de plein fouet la guerre commerciale entre Washington et Pékin. À Londres, le prix du cuivre a cédé 7,9%, l'aluminium 18,1% et le nickel 13,4%. Dans le sillage de ces trois métaux, le zinc, l'étain et le plomb ont aussi vu leur prix fondre. Les experts estiment que cette faiblesse des cours devrait se poursuivre en 2019 face à la crainte d'un affaiblissement de la croissance des économies américaines et chinoises. En outre, ces métaux souffrent d'une offre globalement abondante.
C'est l'heure des sports et on retrouve Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Alors on commence par du football et le championnat malien qui va enfin reprendre.
Oui, après 14 mois d'interruption, le championnat va reprendre ses droits à partir du mois de janvier. L'annonce a été faite par le comité de normalisation de la Fédération malienne de football. Le championnat avait été interrompu en pleine compétition en novembre 2017 en raison de la crise traversée par le football malien. 16 clubs prendront part à la saison 2018-2019 qui verra l'arrivée de trois promus à venir AC de Tombouctou, l'AS Police et l'AS Sabana.
Oui, des nouvelles de Maradona. Maradona qui s'est dit solidaire de Koulibaly, cible de cris racistes.
La légende du football argentin a apporté son soutien au défenseur sénégalais de Naples, victime de cris racistes lors d'un match contre l'Inter Milan. Diego Maradona a posé sur Instagram avec le maillot de Koulibaly. J'ai joué 7 ans à Naples et j'ai aussi subi des chants racistes de certains supporters, a souligné l'ancien capitaine de l'Albi Céleste. Mercredi dernier, Kalidou Koulibaly a été visé par des cris de singe à plusieurs reprises lors du match. Il a été expulsé pour 2 cartons jaunes au coup sur coup.
Cristiano Ronaldo dit ne pas être obsédé par les trophées individuels.
Je ne suis pas obsédé par les prix individuels. Le plus important est de gagner des trophées collectifs et d'aider l'équipe, a affirmé la star de la Juventus Turin, désignée personnalité sportive de l'année 2018 par le quotidien sportif portugais Record. Cristiano Ronaldo a vu le Ballon d'Or 2018 lui échapper après l'avoir remporté 5 fois. Absent de l'équipe du Portugal en début de saison, CR7 a déclaré qu'en 2019, il envisage d'être à la disposition du sélectionneur national.
Et puis enfin en tennis, retour au ici pour Serena Williams.
Et oui, absent du circuit depuis sa finale de l'US Open, Serena Williams a signé une rentrée réussie en battant la grecque Maria Sakkari 7-6, 6-2 à la Hopman Cup, épreuve mixte par équipe qui ouvre la saison 2019. L'américaine aux 23 titres du Grand Chelem s'est montrée plutôt en jambes, même si son succès en simple n'a pas suffi à offrir aux États-Unis la victoire dans cette rencontre contre la Grèce.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Bagassi Koura. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique. Place maintenant au dossier du jour. Dans notre série quotidienne, nous, Congolais, nous allons à la rencontre ce soir d'Euphrasie Kastaki. Elle est une jeune Congolaise. Elle nous donne ici son sentiment sur la présidentielle de ce 30 décembre.
C'est une fierté pour moi d'être congolaise, puisque notre cher pays est un pays très riche vraiment. S'il n'y avait pas l'insécurité, on pourrait trouver n'importe quoi. La vie est très riche, la vie est très facile au Congo, dans notre pays. Nous avons beaucoup de problèmes. Vraiment, les gens souffrent, les gens souffrent. Chaque soir, les gens portent des bagages pour aller se réfugier ailleurs, dans leur propre pays. On est réfugié dans son propre pays. La pauvreté, on est très, très, très pauvre à cause de l'insécurité, à cause de la guerre. On fait l'exode rural. Vous êtes dans la brousse et vous êtes en train de vous réfugier dans la même brousse. On ne sait pas comment. Hein? Je suis une veuve à cause de l'insécurité. Mon mari a été fusillé dans ma propre maison, dans sa chambre à coucher. Maintenant, je ne peux rien faire moi seule, malgré que j'ai fait ce petit travail qui n'est pas tellement rentable. On se demande finalement, c'est quoi qui se passe dans notre pays. Il n'y a personne qui a pitié des autres. On souffre vraiment, nous souffrons tellement, tellement, tellement à cause de l'insécurité. On a assez. On ne sait pas quand est-ce que notre Seigneur Dieu va descendre pour défendre tous ces gens qui sont en train de faire du mal à leurs prochains. On ne voit rien comme l'amour du prochain. L'amour n'est plus là. Les gens ne connaissent plus Dieu. On nous dit quelquefois de choisir nos autorités. Et nos autorités, là que nous choisissons, ils nous promettent de réaliser quelque chose, de faire quelque chose pour moi, pour nous, pour la population. Mais par après, on voit le contraire, on ne réalise rien. Par exemple, on nous a parlé de 5 chantiers. Mais on continue toujours à souffrir. Il n'y a rien qui est réalisé. Nous choisissons bien nous votons de nos députés, n'importe quelle personnalité qui soit à la hauteur de nous venir en aide. Mais par après, quand ils ont eu leur titre là, ils s'en vont. Il ne faut rien pour la population. La population continue à souffrir. Les personnes qui sont responsables de ces misères, ce sont nos autorités. Il n'y a pas d'autres personnes, c'est seulement nos autorités. S'ils prennent en main leurs responsabilités, cette misère va bientôt se terminer. Ce sont les responsables de ce pays. Si je deviens présidente de la République, je rétablirai la sécurité au Congo et j'améliorerai la vie sociale de la population. Nous attendons du nouveau président un changement extraordinaire en voyant la misère que nous venons de traverser durant le mandat des autres qui sont devant lui. Il faut que le peuple puisse respirer. Il faut que le peuple puisse se réjouir de son temps qui va rester au pouvoir, puisque nous en avons assez. Vraiment, l'avenir de ce pays, sans la volonté de Dieu, je constate qu'il n'y aura rien qui va changer. Il y aura toujours des tiraillements. C'est ce qu'on est en train de vivre pendant le temps de ces campagnes. On attend d'ici là des attentats à cause d'être convoité. Il y a des autres qui ne veulent pas que les autres fassent leur campagne. Et de cette façon, vraiment, on ne voit pas qu'il y aura un changement palpable. Et pourtant, on nous a toujours dit qu'après la pluie, vient le bon temps. Nous avons cru que tout cet temps que nous sommes en train de vivre, nous sommes sous une forte pluie. Et nous voudrions maintenant avoir le bon temps.
Voilà, nous voudrions avoir maintenant le beau temps. C'était le message donc de Euphrasie Kastaki dans la série Nous Congolais. Et nous restons toujours dans cette série Nous Congolais et on va à la rencontre de Steve Ndoulé Kanyagambi. Lui, il est salarié du secteur de l'audiovisuel et vit à Kinshasa, la capitale.
Être congolais veut dire être capable de se sacrifier d'abord pour son pays. Donc quelqu'un qui comprend le problème que le Congo traverse et qui est capable de mettre sa force, son intelligence et même son temps pour le valeur de la République démocratique du Congo. Voilà être congolais. Donc être congolais ne se résume pas seulement à avoir une carte d'identité, mais c'est aller au-delà. Être capable de se sacrifier pour son pays, pour sa nation. Voilà, pour moi, être congolais veut dire. Mes problèmes au quotidien, ça c'est grave. Au fait, c'est que, premièrement, il y a ces problèmes d'insécurité qui est là. En fait, c'est que la sécurité est quasiment inexistante dans notre région. Et comme vous le savez déjà, il y a cet aspect massacre, bon, qui est un élément qui est venu s'ajouter à une situation d'instabilité que nous traversons au quotidien dans notre région et dans notre pays. Aussi, il y a ces grands problèmes de transport. Vous imaginez, le transport routier, c'est tout un problème. Et sans parler, sans compter les transports aériens, vous imaginez quitter l'est de la République pour aller vers l'ouest, ça nous coûte les yeux de la tête. Au-delà des 1000 dollars, vous imaginez même quelqu'un qui quitte Beni ici pour Goma, dans une même province, ça vous prend dans les 200 quelque chose. Donc la mobilité pour nous dans notre région, c'est vraiment un casse-tête, c'est quelque chose qui nous prend le moyen et qui ne facilite pas la vie. Donc il y a beaucoup de problèmes, mais laissez-moi seulement citer ces deux-là parmi tant d'autres. Je déteste beaucoup ces comportements de l'État, ces comportements à ne pas être là quand le peuple a besoin de voir des actions concrètes. Vous voyez, il y a absence, le développement n'est pas là, il y a absence de développement dans notre région et sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et certains disent que, ou pour ne pas dire certains, la majorité, dit que l'État n'est pas là. Donc c'est comme si nous sommes dans un pays qui n'a pas de dirigeants.
Voilà, là c'était le message de Steve Kanyagambi Ndoulé. Il est à Kinshasa et nous restons toujours dans la série donc Nous Congolais. C'est une série de portraits de jeunes Congolais et sur leurs aspirations. On reste à Kinshasa pour faire la connaissance de Sarah Lundu Musanga. Elle est étudiante de 26 ans pour qui l'issue de ces élections, donc ces élections qui ont eu lieu hier, importe peu.
Être congolais pour moi veut dire avoir l'esprit fort et dynamique. Voilà, en bref, je sais ce que je peux dire. Je raconte beaucoup de problèmes au quotidien, entre autres les problèmes de l'eau dans mon quartier, les problèmes de route, outre ça, les problèmes de transport. Très souvent, lorsque je quitte la maison pour aller à l'université, en tout cas, le transport n'est pas assez facile. On n'a pas assez de moyens et il y a aussi des problèmes de haussement de transport. Les transports haussent à tout moment, donc ça ne nous facilite pas d'aller à l'université facilement. Ce que je n'aime pas dans l'état de notre pays, c'est les sociales. Quand je parle de ça, je prends un exemple. Chaque matin quand je sors, des fois je vois des enfants de 6 ans, 7 ans qui vendent les légumes sur la tête. Et moi, personnellement, ça me fait très mal. Pourquoi je me dis... Ces enfants devaient être à l'école normalement.
Mais vu le développement de notre pays, vu le social de notre pays, ça ne permet pas à ces enfants d'aller à l'école. Pour manger, ils doivent vendre d'abord. Et cela me choque. En fait, les responsables de ces problèmes, ce sont les leaders. La réussite dépend d'un bon leader. Et quand le leader n'a pas tout le critère qu'il faut pour diriger, c'est compliqué. Voilà pourquoi je donnais un exemple à la question précédente. J'avais dit par rapport aux enfants qui vendaient de légumes. Dis-moi un peu, c'est quel parent qui voudra laisser son fils ou sa fille à cet âge-là de vendre? C'est par manque d'argent. Donc, un parent qui n'est pas bien payé, il a 6 enfants, il est payé à 50 000 francs, 100 000 francs, c'est compliqué. Alors, tout ça, ce sont des problèmes qu'il faudra que le gouvernement puisse régler ça dans ces pays. Si j'étais présidente dans ces pays, la première décision que j'allais prendre, c'est de faire étudier les enfants de maternelle à 6e primaire gratuitement. Ce que j'attends de notre prochain leader, c'est qu'il nous donne les meilleurs de lui, qu'il nous amène à l'émergence parce qu'il n'y a pas, qu'il nous aide à étudier convenablement parce que ce sont des problèmes qu'on rencontre beaucoup dans les universités, qu'ils aident nos enfants, nos petits qui sont encore en primaire de mieux étudier. C'est ce que moi j'entends de lui en tout cas. Parce que un pays sans développement, c'est rien du tout. Alors, moi, j'aimerais que le développement ne soit pas quelque chose comme un slogan, mais que ça soit la réalité, que ça soit une vérité, que ça soit dans la pratique. Bon, une année après les élections, je pense que la RDC va changer beaucoup de choses. Donc je pense qu'avec un bon leader, on aura déjà des fonctionnaires qui seront mieux payés. Il y aura les institutions qui seront bien organisées, bien sûr. Et je pense que la RDC va émerger avec un bon leader une année après les élections.
Alors, c'est le temps de vous souhaiter bonne année sur VOA Afrique avec Loka Sayambongo. Bonne année à tous. Voilà, c'est donc tout pour ce magazine donc d'actualité. Présentation Bagassi Kouraï à la production. Il y avait Lionel Gaïma. Passez une très bonne année et soyez prudents si vous devez prendre la route.
Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année.